dans ce...
Je propose que nous commencions et s'il y a quelques retardataires, ils nous rejoindront. On a réussi à stopper l'aspirateur, bon, tout va bien. Bien, donc je vous présente Nathalie Simoneau, qui d'ailleurs nous a fait le plaisir d'être parfois membre de notre jury.
Tout à fait.
Soutenant de diplôme. Donc Nathalie Simoneau est historienne, ingénieure de recherche au laboratoire donc, de l'École nationale supérieure, là je ne me trompe pas, d'architecture de Versailles. Donc vous avez, je pense, reçu effectivement l'annonce. Et donc son propos aujourd'hui va être construire avec la lumière. J'ai eu le plaisir de voir que vous êtes assez nombreux de cinquième année là, ce soir. En tout cas plus nombreux qu'à l'habitude, et c'est très bien parce que ce sujet évidemment vous concerne très très directement, même si déjà votre projet, vos projets imposés de diplôme sont très engagés sur la question. Je vais vous laisser la parole. Fermez peut-être la lumière.
Oui, je pense que ce serait utile, comme je fais une projection. Voilà. Merci, bonsoir. Je suis très heureuse d'intervenir à l'école Camondo. Effectivement, j'étais déjà intervenue une première fois dans cette école il y a quelques mois pour les jurys de mémoire et avec grand plaisir. Et donc, je suis très heureuse à nouveau d'intervenir sous une autre forme ce soir. Donc, je voudrais remercier Pascal Boulard et Alexis Markovics pour leur invitation. Et donc, mon propos ce soir sera tourné sur la question de la lumière. Alors, je ne vais pas du tout aborder la lumière d'un point de vue technique ou contemporain, mais bien plutôt d'aborder la question lumineuse à travers la question de l'histoire. Donc, je suis historienne de l'architecture et je m'intéresse aux questions d'éclairage artificiel au XXe siècle, essentiellement durant l'entre-deux-guerres et l'après-guerre. Et j'ai mené des recherches sur des corpus assez étendus et plus spécifiquement sur les ouvrages et les revues qui ont traité de lumière artificielle dans leurs colonnes. Alors, pour commencer... Voilà, ça c'est un petit schéma qui synthétise en fait ma recherche sur la lumière, puisqu'en fait c'est une recherche assez récente, enfin qu'il y a quelques années. Auparavant, je travaillais sur d'autres sujets, puis je travaille encore sur d'autres sujets. Et la question de la lumière, en fait, elle a débuté en 2009. À cette époque-là, je travaillais dans un laboratoire de l'école d'architecture qui s'appelle le CERMA. On a eu l'idée, avec un collègue de l'école d'architecture de Lille, qui était un ancien doctorant du CERMA, d'organiser un colloque sur la question de l'architecture lumineuse, c'est-à-dire quels sont les rapports entre l'architecture et la lumière électrique. Mais avec une approche historique limitée sur une période chronologique assez stricte qui commençait au début du XXe siècle et qui se fermait en 1973 pour justement éviter les débats sur les réductions, sur les consommations énergétiques, sur la réduction énergétique. Et pour justement travailler sur la question de la lumière à profusion, de la lumière que l'on consomme sans modération. Et effectivement, on le voit bien, après les années 70, après le premier choc pétrolier, hein, vous le savez tous, hein, on commence à faire un peu plus attention à la manière dont on consomme l'énergie. Donc on a voulu laisser de côté toutes ces questions de problématiques environnementales et de maîtrise des énergies pour s'intéresser à la question lumineuse, de la lumière généreuse et utilisée un peu sans limite. Donc, dans ce colloque, j'avais fait une intervention sur l'éclairage nocturne dans les concours d'architecture de l'École nationale supérieure des beaux-arts, dont je vous parlerai en seconde partie d'intervention, qui est tout à fait une étude qui est tout à fait éclairante, c'est le cas de le dire, sur la manière dont l'École des beaux-arts, avant 68, ça sans doute vous le savez aussi, a eu beaucoup de mal à intégrer les évolutions techniques et comment ça s'est ressenti dans les projets des étudiants. Ensuite, donc, ce colloque a donné lieu à la publication des actes en 2012. Et donc, on nous avait demandé de présenter l'ouvrage dans un colloque à Lausanne, à l'EPFL. Et à ce moment-là, on s'est dit, on ne va pas redire ce qui a déjà été dit, ce n'est pas très intéressant, et on s'est partagé le travail. Et moi, je me suis intéressée à la question de la place du confort et de l'esthétique dans l'historiographie de l'architecture lumineuse. Et c'est ce dont je vais vous parler ce soir. En fait, c'est de dresser une historiographie sans doute un peu trop rapide, mais synthétique sur la manière dont on a parlé de lumière, dont les historiens ont parlé de la lumière au XXe siècle. Et ensuite, à partir de cet article, j'ai senti qu'il y avait deux sujets qui pouvaient être exploités davantage. Le premier en bas, à gauche, donc, qui est une étude sur la revue Luxe, qui est une revue fondée en 1928 et qui existe toujours. C'est la revue française de l'éclairage artificiel, où j'ai tenté de montrer comment sur le temps long, donc 1928-1973 toujours, on observe une évolution dans la définition de la notion de confort. Ça, c'était à l'occasion d'un colloque qui s'est tenu à Mendrisio l'année dernière. Et plus récemment, en tout cas en ce moment, un développement autour des revues, c'est-à-dire la question de l'architecture et de la construction dans les revues d'éclairage artificiel américaines, britanniques finalement j'ai pas fait, et françaises, donc là aussi dans une perspective historique, et sur un temps assez serré qui est 1928-1939. Donc, parce que quand vous brassez des très très gros corpus, vous êtes bien obligé à un moment donné de délimiter quelque part de manière assez fermée. Donc là, c'était sur la période chronologique. Et ça, c'est dans un congrès à Chicago auquel je dois me rendre dans 2 mois. Bon, voilà. Voilà dressé le cheminement de ma recherche. Comment on part d'une chose et qu'on arrive à d'autres, qu'on se dit on va exploiter d'autres sujets. Voilà, c'est les choses s'enrichissent au fur et à mesure. Donc, l'intervention d'aujourd'hui porte sur l'approche historiographique du rapprochement entre lumière électrique et architecture. Alors, quels sont les sujets les plus traités quand on lit les ouvrages consacrés à l'éclairage artificiel ou les revues, essentiellement ? On se rend compte que ce sont principalement les questions relatives au confort lumineux, et à la mise en valeur architecturale qui sont de loin les plus abordées. Et bien entendu, si l'on fait abstraction des innombrables contributions sur la physiologie de la vue, sur les systèmes de perception, sur les avancées technologiques et les appareils d'éclairage qui forment quand même un ensemble très important sur ces supports. Quel est le corpus d'études sur lequel je me base ? Essentiellement les revues, revues professionnelles consacrées à l'éclairage artificiel, pas les revues d'architecture qui en fait ont abordé qui avaient un autre objectif que celui de la valorisation de l'éclairage artificiel. Et on observe que ces revues professionnelles consacrées à l'éclairage artificiel sont nombreuses depuis le début du XXe siècle. En 1939, la revue Luxe consacre un article sur le sujet pour montrer qu'à l'échelle internationale, le nombre de publications s'est accru de manière très importante entre le début du siècle et les années 30. 4 revues spécialisées sont identifiées en 1916, 11 en 1929, donc un triplement du nombre de revues. L'ampleur du phénomène traduit un investissement rapide et massif de la part des principales puissances économiques et industrielles que sont bien évidemment les États-Unis, hein, les premières qui publient des journaux professionnels sur la question de l'éclairage artificiel, suivis très peu de temps après de l'Angleterre et de l'Allemagne, puis le Japon, l'Autriche, la Belgique, l'Italie, etc. Et la France qui arrive très tard, en queue de peloton, hein, en 1928, puisque c'est la date de la fondation de Luxe. Donc un retard d'à peu près 20 ans sur les autres pays. Il n'y a pas que les revues, il y a aussi les ouvrages techniques. Par ouvrages techniques, j'entends les rapports, les traités, qui ont contribué à témoigner des avancées technologiques, tout en cherchant à mettre leurs propos à portée des professionnels spécialisés, capables d'interpréter les schémas et les principes d'éclairage. Donc ce ne sont pas des livres strictement techniques, mais ce sont davantage des ouvrages plus généralistes qui permettent de parler à des publics autres que les seuls ingénieurs éclairagistes. En fait, ils ont un petit peu le même objectif que les revues d'éclairage électrique, mais ils font la synthèse de réflexions plus larges et ils sont publiés à des intervalles plus longs, bien sûr. Et enfin, dernier élément de mon corpus d'études, ce sont les ouvrages de synthèse historique qui sont à l'opposé de cette littérature professionnelle régulière et à vocation pratique. Les ouvrages scientifiques assurent la synthèse de ces multiples approches thématiques et ils apparaissent beaucoup plus tard, à partir des années 1980, en tout cas en France, et il faut les considérer comme des actes de consécration historique subventionnés par les fournisseurs d'électricité eux-mêmes. Ce sont des opérations de valorisation culturelle savamment orchestrées et confiées essentiellement aux mains des historiens. Alors une fois qu'on a dit ça, très bien, on a mis sur la table le corpus d'études, donc revues, ouvrages techniques et ouvrages de synthèse historique, chacun avec leur spécificité propre et leur public propre. Après, on doit s'intéresser au terme que l'on emploie quand on parle d'architecture et de lumière. Alors, dans toute cette littérature, on voit apparaître le terme d'architecture lumineuse. C'est d'ailleurs le titre que nous avions repris pour organiser le colloque à Nantes en 2009. Mais on voit aussi architecture de lumière ou architecture de la nuit. En 1929, l'architecte Charles Siklis emploie l'expression architecture lumineuse pour expliquer que son projet lumineux pour un théâtre assure une transition progressive de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que la lumière accompagne la transition, normalement brutale, entre l'intérieur et l'extérieur, et assure une transition douce. En 1931, un autre architecte, Rougemont, affirme que l'architecture lumineuse est à la mode, sans saisir que cet engouement sera durable. Et surtout, Dietrich Neumann, un historien américain, publie en 2002 un ouvrage collectif qu'il intitule « Architecture of the Night », dont on voit la couverture ici. Dans cet ouvrage, il affirme que le terme « Architecture of the Night » est employé pour la première fois en 1930 par l'architecte américain Raymond Hood dans un numéro spécial de la revue Bulletin of the General Electric Company, et que Raymond Hood a intitulé Architecture of the Night. Donc, selon Neumann, c'est la première fois qu'on emploie ce terme. Mais il précise toutefois que le concept était déjà en débat depuis plusieurs années dans le milieu des architectes, des éclairagistes et des critiques. Neumann dit, alors là, je traduis de l'anglais, hein, c'est donc ma traduction personnelle. Ils étaient tous convaincus que l'apparence nocturne, c'est-à-dire les professionnels de l'architecture, étaient tous convaincus que l'apparence nocturne de l'architecture devait être consciencieusement préparée, puisqu'étant une partie importante de sa conception. La lumière électrique était considérée comme un nouveau matériau de construction pouvant apporter des transformations aussi importantes que ne le furent au XIXe siècle l'arrivée du verre et du métal. Werner Röchlin, qui est l'un des auteurs qui a participé à l'ouvrage de Neumann, fait remonter l'origine de cette appellation aux écrits de Joachim Teichmüller. Joachim Teichmüller était le fondateur de l'Institut de technologie de Karlsruhe, spécialisé dans la lumière, et qui a publié en 1927 un article dans lequel il emploie le terme de, je ne parle pas l'allemand, donc Lichtarchitektur, sans doute je le dis mal, pour la première fois. Teichmüller parle d'une profusion du phénomène, donc tout ça c'est entre guillemets, puisque c'est la reprise texto des écrits, il parle de profusion du phénomène, de nouveau construire, ce qui n'est pas sans rappeler les débats sur l'émergence du mouvement moderne durant l'entre-deux-guerres, où on parlait aussi de nouveau construire. Là aussi, il y avait une indétermination dans la manière de parler de cette architecture moderne, et ça rejoint aussi ce flou sur le terme d'architecture lumineuse. Profusion du phénomène, nouveau construire, qui implique un lien entre le progrès technique et des expressions architecturales rationalistes. Alors, pourquoi finalement un intérêt, puisque si l'on considère que cette architecture lumineuse était importante relativement tôt dans le siècle, comment se fait-il que les historiens s'y soient intéressés finalement assez tard, dans les années 80 ? Alors, c'est ce que souligne Neumann quand il témoigne du faible intérêt suscité encore récemment par l'introduction de la lumière électrique dans le processus de conception du projet architectural. Et ceci malgré l'engouement de certaines avant-gardes internationales pour la conception de projets lumineux. Alors on pense bien entendu aux projets d'un architecte comme Mies van der Rohe ou Erik Mendelssohn ou Bruno Taut qui ont exploité avec beaucoup de talent et d'innovation, le lien entre architecture moderne et lumière électrique. Neumann donne quelques hypothèses pour comprendre cette absence d'intérêt des historiens jusqu'à peu de temps. Il dit que l'aspect éphémère de l'illumination, son absence de traces, en effet, la lumière, une fois qu'on l'éteint, elle n'est plus là. Elle est éphémère. L'absence de traces pourrait avoir contribué à une histoire sélective en raison du manque de sources directes. Et c'est un argument que reprend Werner Röchlin en argumentant de la difficulté de définir et de décrire correctement la lumière. Ensuite, il y a une autre question qui apparaît dans l'étude de l'architecture lumineuse, c'est la question de gagner la confiance de l'architecte. C'est-à-dire comment faire collaborer des ingénieurs éclairagistes et des architectes, chacun avec ses spécificités professionnelles, et comment permettre le dialogue entre les deux. Et ça n'a pas été évident, en tout cas pour les architectes. Et on observe une absence de reconnaissance des architectes vis-à-vis de spécialistes avec lesquels ils sont pourtant amenés à travailler dès la conception du projet. L'ingénieur éclairagiste André Salomon pense que l'architecte peut craindre un déplacement de la commande qui lui était jusque-là réservée. En effet, l'ingénieur a gagné en puissance tout au long du XIXe siècle, ce qui a engendré des crises de la profession d'architecte et des questionnements identitaires importants. Salomon distingue trois types d'éclairage. L'éclairage utilitaire, l'éclairage de présentation et l'éclairage d'ambiance. Alors, selon lui, l'éclairage utilitaire est de la compétence de l'ingénieur. L'éclairage de présentation est ce qu'il nomme est de la compétence de l'artiste. Et le troisième, donc l'éclairage d'ambiance, est une synthèse entre les deux premiers types d'éclairage. mais avec un avantage pour l'ingénieur, selon Salomon, bien entendu. Salomon dit « L'ingénieur peut jouer le rôle de créateur si les formes techniques sont acceptables sans modification. » Alors ça, c'est important parce que ça veut dire que dans sa capacité à créer un projet à lui seul, l'ingénieur détient une avance sur l'architecte. D'où l'idée, fausse sans doute, mais bien ancrée, que l'ingénieur peut totalement remplacer l'architecte. Neumann qualifie cette forme de résistance d'antipathie passive ou active envers l'ingénierie lumineuse. Et quand on suit les débats au fur et à mesure, on se rend compte qu'après-guerre, cette méfiance, pourtant les collaborations ont déjà été mises en place depuis de nombreuses années, mais on observe après-guerre une méfiance toujours persistante, soulignée par Louis-Christian Kalf, qui était un designer néerlandais qui a travaillé pour Philips, qui rappelle que dans le passé, donc là je cite l'auteur, il était difficile d'établir ce type de coopération. Mais aujourd'hui, il est nécessaire d'en finir avec l'impression qu'ont beaucoup d'architectes, ainsi que leurs clients, que l'ingénieur éclairagiste veut se mêler de ce qui ne le regarde pas. Cette collaboration, où chacun apporte sa compétence sans empiéter sur le travail de l'autre, est nécessaire et elle est soulignée régulièrement par l'ensemble des revues d'éclairagisme. Donc on observe une sorte de militantisme de ces revues pour rassurer l'architecte et lui dire « Vous pouvez travailler avec l'ingénieur, il faut travailler avec l'ingénieur éclairagiste dès les premières phases du projet et pas après, c'est pas quand le bâtiment est construit qu'on s'interroge pour savoir comment on va l'éclairer. C'est au début qu'il faut intégrer la conception architecturale et lumineuse dans un même projet. » Par sa fonction, l'architecte est placé dans un rôle de coordinateur général du projet. Il doit, de ce fait, posséder quelques connaissances en matière d'éclairagisme. Les architectes sont prêts à faire l'effort nécessaire, même si Robert Malestevens rappelle que cette connaissance ne peut être que limitée. Évidemment, l'architecte ne peut pas tout savoir. Et plus la science de la construction progresse, ce que dit Malestevens, moins l'architecte est profondément compétent. L'ingénieur Joseph Wetzel, qui est fondateur de la revue Lux en 1928, reconnaît cette limite dans la compétence de l'architecte et dans les connaissances qu'il doit avoir, mais engage les architectes à acquérir quelques savoirs élémentaires. C'est ainsi qu'il dit que sans pousser ses connaissances d'éclairage aussi loin que l'électricien, l'architecte doit cependant en avoir assimilé les principes généraux et connaître suffisamment le langage courant de l'éclairagiste pour s'entendre avec son interlocuteur spécialiste. Certains suggèrent l'intervention d'un expert qui pourrait coordonner le travail de l'ingénieur, de l'architecte et du décorateur, tandis que d'autres recommandent la création d'architectes éclairagistes spécialisés, en argumentant du retard important pris par l'Europe sur les États-Unis en matière de compétences. Donc l'objectif, il est clair, c'est créer les conditions nécessaires à une coopération plus organisée. Ces propos, qui ont été énoncés en 1968, révèlent qu'en France, la question du partage des compétences et des identités professionnelles n'est toujours pas clairement résolue, 40 ans après l'émergence des premières collaborations entre architectes et ingénieurs éclairagistes, telles qu'ont pu les engager Malestevens ou Pierre Charot avec l'ingénieur Salomon durant l'entre-deux-guerres. Les manuels techniques sont pourtant clairs sur le sujet. Le traité de Maurice Deribéré et Pierrette Chauvel montre comment les luminaires structurent l'espace intérieur, orientent les lignes principales et modèlent des zones d'ombre et de lumière. Donc ici, on a des schémas de dissimulation des sources lumineuses et de structuration de l'espace avec la disposition des appareils d'éclairage, qu'on retrouve également dans le manuel d'éclairagisme d'André Salomon. L'éclairage est donc un système de composition qui relève de l'exercice du projet, c'est-à-dire d'un travail de conception et de rassemblement de données multiples. Alors, voilà donc brossé à grands traits les principales lignes et les contenus qu'on peut trouver dans ces revues. Alors maintenant, on peut s'intéresser plus spécifiquement à certains aspects. Et donc, c'est ce que j'ai tenté de faire en m'intéressant à la question du confort lumineux, qui est une notion très vaste, sans cesse redéfinie, mais en essayant de voir comment la question du confort a été traitée dans ces supports. Ce que l'on observe, c'est que les préoccupations autour du confort sont présentes très tôt dans la presse. Le titre de la revue anglaise The Illuminating Engineer, The Journal of Good Lighting, montre que la revue entend s'intéresser à la notion de bonne lumière, good lighting, sous-entendant une lumière juste, correctement dosée et distribuée. L'historien Alain Beltrand parle de conversion au bonheur électrique, et il rappelle combien le Salon des arts ménagers a contribué en France à la diffusion des appareils électroménagers et des luminaires dans les foyers, et combien la source électrique était associée à l'idée de progrès et de confort moderne. La maison est effectivement au cœur du discours des professionnels de l'éclairage. De nombreux articles montrent des intérieurs rénovés à l'appui de photos radicales avant, après. Ça parle tout seul. Pour montrer le contraste existant entre deux états. Alors ça, c'est très amusant, parce qu'on en trouve plein d'autres, des images comme ça, des comparatifs assez caricaturaux, mais qui sont là pour convaincre, pour tenir un discours sans doute un peu simple, mais qui parle de lui-même. Alors, on peut dire plein de choses sur les revues, parce qu'il y a des systèmes de lecture à plusieurs niveaux. Soit vous lisez la revue rapidement en passant les pages, et les images à elles seules suffisent à transmettre l'idée. Soit vous lisez les contenus, bon, il y a plusieurs niveaux de lecture possibles. Les bâtiments publics et les entreprises sont également régulièrement prises en exemple, notamment lorsque des tâches précises comme la lecture ou le travail manuel nécessitent des conditions d'éclairement adéquates. Le but, il est tout simple, c'est éviter la fatigue et voir ne pas altérer définitivement la vision. La rentabilité et la productivité, quels que soient les âges de la vie, c'est-à-dire aussi bien celle de l'écolier que celle de l'ouvrier, sont convoqués pour justifier la nécessité d'atteindre un seuil de confort minimum. Alors, comme dans beaucoup d'évolutions techniques en matière de bien-être, ce sont les médecins qui anticipent le discours. Et établissent au sujet de l'éclairage artificiel des habitations, ils établissent le lien entre salubrité publique, confort et qualité de vie. On parle notamment du problème de certains enfants qui ont des déficiences visuelles plus ou moins importantes, mais là, le cas des élèves amblyopes, pour lesquels une classe particulièrement bien éclairée doit être étudiée. Il est dit au sujet de cette classe, il semble que ces enfants physiquement diminués ressentent un véritable bien-être lorsque cette lumière artificielle vient ensoleiller leur classe. Ces propos rejoignent le discours hygiéniste sur les besoins en éclairage naturel. Hein, il y a une corrélation forte, bien sûr, entre le discours sur le bien-être et le confort apporté par l'éclairage artificiel et les besoins en lumière naturelle, essentiellement pour des raisons thérapeutiques, hein, avec l'hygiénisme, mais aussi de confort plus généralement. Et les slogans publicitaires savent user de formules sans équivoque. Alors, je suis allée trop vite. Voilà. Quand la lumière est correcte et juste, l'apprentissage est plus facile. Donc, on a beaucoup de publicités d'entreprises assez intéressantes à étudier. Ça forme un autre corpus qui pourrait être étudié en tant que tel. Sur la manière dont les entreprises et les sociétés vendent leurs compétences ou leur matériel électrique, leurs appareils électriques, pour convaincre de la nécessité de bien voir. L'argument est imparable, 87% de l'apprentissage se fait par la vue, donc il faut bien voir pour apprendre. L'éblouissement, qui est un des gros problèmes en matière de lumière et contre lequel on cherche à lutter, l'éblouissement est pointé du doigt comme le grand responsable de l'inconfort et des troubles de la vue. Il est une gêne quotidienne dont l'individu se défend mal. Alors là aussi, dessin assez drôle qui montre comment une mauvaise lumière peut être une gêne très importante. Et comment une bonne lumière peut être comparable à une douche bienfaisante. Donc, c'est intéressant à étudier parce qu'au-delà de la question de la lumière et de la vue, sont convoqués les autres sens dans la question du bien-être. La lumière qui n'aveugle pas, c'est comme quand on est sous la douche, c'est agréable. Donc, là aussi, il y a des recherches intéressantes à mener sur la question du corps et des sens en général par rapport à la question de l'éclairage électrique. Alors, on édite des... Ah ben voilà, il y a celle-ci aussi, un autre dessin comparatif qui parle de lui-même. Ça, ce sont des brochures qui sont éditées par la Société pour le perfectionnement de l'éclairage, qui sont des petites brochures thématiques. Ici, c'est la brochure sur l'éclairage de l'habitation. Et qui sont assez intéressantes, qui sont bien faites, et qui sont dont l'objectif est de parler au plus grand nombre, c'est-à-dire non pas de sensibiliser les ingénieurs, qui normalement savent tout ça, mais bien des cercles professionnels plus larges, voire éventuellement le grand public, encore que ces revues étaient à destination professionnelle. Et alors justement, le grand public... Il est tenu informé au moyen de documents de vulgarisation scientifique, parce qu'il s'agit d'éduquer. Le Centre d'information de l'éclairage publie, ça c'était les brochures, « Comment éclairer votre logement ?» Un exemple de livre parmi d'autres, il y en a plusieurs sur le marché, qui synthétise l'ensemble des points abordés de manière plus complète par les supports professionnels. La définition d'un bon éclairage, le choix des luminaires et des suggestions pratiques pour l'éclairage de chaque pièce. Donc en entrant dans le champ de la modernité et en participant à la notion de progrès collectif, la lumière est bien considérée comme un élément indispensable que chacun, quel que soit son âge ou son activité, doit pouvoir bénéficier équitablement. Deuxième aspect, deuxième volet sur lequel je travaille, la question de la mise en valeur, donc esthétique et patrimoine. La relation entre architecture et éclairage électrique, qui est donc déjà très présente dès les premières contributions éditoriales dans les années 20, et à l'appui du développement de l'architecture du mouvement moderne, cette relation s'est renforcée progressivement après-guerre. Durant les 30 Glorieuses. Un exemple intéressant qui est l'ouvrage très soigné, un très bel ouvrage que publient l'ingénieur Giovanni Canesi et l'architecte Antonio Ramelli, en 1934 et qui témoigne là véritablement d'une collaboration efficace entre un architecte et un ingénieur. Et cet ouvrage est intéressant parce qu'il fait aussi bien la promotion des architectures de l'avant-garde que celle d'édifices anciens qui sont mis en valeur grâce à la lumière. Donc, on a tout un pan de la recherche qui travaille sur ces questions de l'éclairage patrimonial, qui est intéressant à étudier également aussi, hein, puisque les systèmes d'éclairage, on peut les changer. Les bâtiments en général, en tout cas les vieux bâtiments comme celui-ci, on n'y touche plus trop. Hein, mais la lumière peut être changée, les projets de lumière peuvent être changés, et donc c'est la perception de l'édifice qui change. Et c'est ça qui est intéressant dans la question de l'éclairage des bâtiments. Le rôle que joue l'utilisation du verre dans l'affirmation de la transparence architecturale témoigne aussi bien du développement d'architecture perméable à la lumière naturelle, qui apporte transparence, gain de luminosité, esthétique de la clarté, que de la possibilité de les faire exister, donc ces bâtiments transparents, lorsque la lumière du jour n'en constitue plus un matériau essentiel. Donc il faut penser la vie d'un bâtiment, enfin, la représentation, l'existence d'un bâtiment, il faut que l'architecte la pense aussi bien de jour que de nuit. Et donc c'est là où la conception avec l'ingénieur éclairagiste est essentielle. En 1956, la publication de Walter Keller et Vassili Leuckart. Leuckart était un architecte allemand proche du mouvement expressionniste et moderniste. Lichtarchitektur, cet ouvrage décrit des édifices nocturnes semblables à du cristal et rayonnant de lumière. Enfin, pour terminer cette investigation historiographique, et plus récemment, donc l'intérêt des historiens pour ces questions. En France, des expositions qui sont financées par la Fondation Électricité de France, Architecture de l'électricité en 1992, puis Métamorphose de l'électricité en 2004, donc qui sont des catalogues, hein, que vous pouvez consulter, et qui, avec le livre de Neumann, dont j'ai parlé tout à l'heure, daté de 2002, forme les jalons contemporains d'une consécration de l'union entre l'édifice et la lumière électrique. Dans les trois cas, et en dehors de quelques contributions sur la technique, l'industrie ou l'art, le propos est centré sur l'aspect créatif de cette union. Comme le précise Bruno Foucard, historien, c'est par là que tout a commencé. Foucard dit « L'illumination des édifices aura été le premier service rendu à l'électricité par l'architecture. » Les expositions universelles, grandes consommatrices de l'énergie électrique, aussi bien pour la démonstration des appareils en fonctionnement que pour la mise en valeur nocturne des pavillons, ont fourni régulièrement leur lot de contributions scientifiques de la part des historiens. Je pense notamment au pavillon de l'électricité de Miles Stevens en 1937, qui a été bien étudié maintenant. Mais surtout, l'association de l'architecture et de la lumière électrique enclenche une histoire autour du développement de certains courants avant-gardistes au sein du mouvement moderne, au point que la technique a motivé l'évolution des formes architecturales. Je cite Foucard. L'électricité est donc devenue un matériau et peut-être au même titre que l'acier et le béton, le matériau constitutif de ce que l'on a appelé l'architecture moderne. Elle en est le principe d'immatériel. Donc pour conclure, avant d'aborder le deuxième volet, on observe un glissement progressif du discours des ingénieurs et des architectes vers celui des historiens. L'historiographie de cette somme de travaux montre qu'à la question du confort et de l'esthétique lumineuse, largement défendue par les revues d'éclairage, offre une entrée pour comprendre deux choses. D'abord, la nature des relations interprofessionnelles à l'appui de réalisations majeures, mais aussi d'exemples peu connus qui n'ont pas franchi le cap d'une réception distinctive par l'histoire. Ces revues fourmillent d'exemples de bâtiments complètement oubliés aujourd'hui, d'aménagements intérieurs, tout simplement parce que souvent les aménagements lumineux ont changé. Alors, quand quelque chose disparaît, c'est encore plus difficile d'en maintenir le souvenir. Mais ils sont intéressants, ces revues d'éclairage sont vraiment intéressantes à étudier parce qu'on y trouve tout ce qu'on ne trouve pas dans les revues d'architecture. C'est-à-dire très souvent la production courante, bon, les grandes œuvres aussi, mais aussi beaucoup la production courante, les halls d'hôtels, les restaurants, les cinémas. Et donc, ces revues permettent de s'affranchir de la critique architecturale qui est davantage présente dans les revues d'architecture. Premier élément. Deuxième élément, cette historiographie enrichit la compréhension des différentes tendances architecturales qui s'affirment à partir des années 20 parmi les avant-gardes internationales. Voilà, donc brosser sans doute bien trop rapidement cette historiographie qui est évidemment bien plus importante, mais j'ai essayé vraiment de pointer les principaux éléments et surtout d'axer le propos sur la question du confort d'une part et de l'éclairage des bâtiments d'autre part. Alors, j'avais pensé dans un deuxième temps prévoir un format tout à fait différent. J'espère que ce n'était pas trop indigeste, mais prévoir un format tout à fait différent d'intervention qui serait peut-être davantage un dialogue avec vous pour observer vos réactions face à certaines images que je vais vous montrer et qui en fait viennent d'une étude que j'ai faite sur les planches, les rendus des étudiants de l'École des Beaux-Arts au XXe siècle, qui ont, pour certains, travaillé la question de l'éclairage électrique. Donc, je vais introduire le sujet, et ensuite, je vais vous montrer des images, puis vous allez me dire peut-être ce que vous voyez, ou je vous dirai, enfin, c'est comme vous voulez. Alors, entre 1906 et 1967, l'École des Beaux-Arts a publié l'ensemble des rendus de ses promotions. Alors ça, c'est un corpus formidable. Ce sont les éditions Vincent, Fréal et compagnie qui ont commencé à publier cela avant de devenir les éditions Vincent, Fréal, et qui permettent de comprendre l'évolution du projet d'architecture avant les réformes de 1968. Alors, j'ai passé en revue tous ces dessins en m'intéressant plus spécifiquement aux années 30 et aux années 50 où il y a un peu plus de choses sur l'éclairage électrique à ce moment-là. La reproduction imprimée de ces planches, alors, ce sont les élèves qui sont primés, hein, c'est pas tous les élèves de chaque promotion, sinon ça ferait des volumes énormes, mais ce sont les élèves primés lors de chaque concours. Cette reproduction imprimée donne une visibilité publique à cette production et c'est une source historiographique de premier choix. On les trouve à la bibliothèque de l'École des Beaux-Arts. Alors, premier constat, ce que j'ai fait, j'ai pris l'ensemble de ces planches, je les ai toutes regardées et j'ai essayé d'évaluer dans combien de planches on avait un rendu d'architecture sous lumière artificielle. À peu près 130 à 150 planches par an qui sont publiées. Et premier constat, une infime proportion d'entre eux choisit la représentation sous lumière électrique. Sur 130 à 150 planches annuelles, seulement 3 ou 4 projets utilisent l'éclairage électrique, soit une moyenne de 2 à 3% par an. C'est-à-dire que c'est extrêmement peu. De plus, dans les programmes de concours qui mentionnent la possible représentation de nuit d'un édifice, seul un rendu sur 4 en moyenne présente une vue nocturne. Alors, pour saisir les raisons de cette lacune, il est nécessaire de comprendre l'histoire de cette école et de ses enseignements, notamment dès la fin du XIXe siècle, où certains architectes ont cherché à faire évoluer la pédagogie. Je pense notamment à Julien Gadet ou à Eugène Viollet-le-Duc. Franz Jourdain, parmi les premiers, s'est plaint justement de cet immobilisme de l'école. Il dit « Pas varier ses programmes. Les élèves devaient composer des casinos au bord de la mer avec des ports pour des gondoles, des villas entourées de terrasses et de treilles, des portiques sur des places publiques, des musées dans des parcs, des orangeries avec des grottes surmontées de loggias, des campos santos, des édifices sans destination spéciale, uniquement dans le but d'orner des îles. » Cette lacune dans la représentation de l'éclairage électrique ne fait que souligner encore la difficulté de l'école à ancrer sa pédagogie dans la réalité des attentes de la société. Et l'intérêt de ces quelques planches, qui sont finalement assez peu nombreuses, c'est qu'elles présentent des dessins atypiques, dotés pour certains d'une inventivité surprenante et qui sont révélateurs de la perméabilité incontournable avec les avancées techniques, quand bien même l'école est réticente. Alors le mode pédagogique à l'école des Beaux-Arts, c'est celui du concours, destiné à favoriser l'émulation entre les élèves. Dans l'édition de son cours d'architecture, Jacques-François Blondel, au XVIIIe siècle, avait proposé que des prix soient décernés aux élèves afin de leur donner plus de passion et de courage. Ces concours sont ensuite devenus mensuels sous l'appellation de prix d'émulation qui avait lieu tous les mois. Les sujets étaient formulés par le professeur de théorie de l'architecture et consistaient à réaliser alternativement une esquisse, c'est comme ça qu'on l'appelait, ou un travail plus conséquent qu'on appelait le projet rendu, destiné à préparer au concours du prix de Rome. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, le mécénat de quelques fondations privées a permis à l'école d'organiser de nouveaux concours, comme le concours des élèves américains, le concours Chenaval, le concours Rougemont. Alors l'introduction des techniques modernes, introduction timide, se fait durant l'entre-deux-guerres. En 1917, l'architecte Victor Laloux, celui qui a construit la gare d'Orsay, recommande que des enseignements sur l'électricité, le chauffage et la ventilation soient dispensés afin que les élèves prennent en compte les progrès en matière d'hygiénisme et de salubrité publique dans leurs projets. En 1934, l'année scolaire 1934-1935, un cycle de conférences sur l'électricité et l'éclairagisme est mis en place à l'ENSBA. On y trouve des intervenants de l'École centrale des arts et manufactures, mais les conférences sont facultatives. Donc, ce n'est pas intégré dans le cursus obligatoire. N'y vont que ceux que ça intéresse. Alors, plusieurs thèmes semblent se dégager de ces planches, à la fois dans la nature des programmes proposés au concours et dans la manière d'y répondre. C'est ce que je vais vous montrer. Alors voilà, donc je vais vous montrer des images. Elles sont classées indistinctement, enfin elles ne sont pas classées par ordre chronologique. Pour certaines, j'ai fait exprès de cacher la légende pour faire ce petit jeu, si ça vous intéresse, de savoir un petit peu ce que l'on voit et comment ces rendus sont traités. Alors, première planche, à votre avis, de quoi s'agit-il ? Hein ? Un cirque ? Ouais, c'est effectivement un cirque. Hein ? C'est l'entrée d'un cirque. Alors, ce qui est intéressant là à observer, là on est vraiment dans la pédagogie Beaux-Arts, c'est-à-dire une démesure extraordinaire du projet. hors échelle, puisque l'entrée d'un cirque, vous voyez, elle est hors échelle. On voit la dimension des voitures et des personnages en bas. Et c'est surtout que ce rendu, finalement, cherche à magnifier la question de l'univers intérieur. C'est-à-dire, une fois franchi cette porte monumentale, on se retrouve dans un univers féerique où l'on observe quelques guirlandes lumineuses suspendues sous le chapiteau et qui laissent supposer, sans le dire parce qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, que là, c'est un univers complètement magique et en rupture franche avec l'extérieur. Ça rappelle certains des projets de Louis Boulet à la fin du XVIIIe siècle, qui avait justement aussi usé beaucoup de la question de la démesure et de la monumentalité dans ses projets. Bon, ça c'est toujours sur le même concours, un autre élève. Donc à chaque fois on a le nom des élèves primés et le nom des enseignants. Qui est assez proche du précédent, dans ce sens où on est encore dans une démesure du projet, du rendu, monumentalité des sculptures, de l'édifice, mais surtout, et ça c'est ce que j'ai trouvé intéressant en analysant ce projet, dans la puissance lumineuse de l'intérieur. Hein. Donc là, on est en 1930. Bon, on suppose que l'intérieur est gigantesque, en tout cas on l'imagine à la rangée de personnages dans le cirque, mais pour obtenir une telle puissance électrique, on se demande comment c'est possible, quels appareils d'éclairage pouvaient produire ça. Mais on est dans le rendu, il faut convaincre, donc on exagère. Alors là, votre avis, ça date de quelle année, ça? Donc c'est un music hall. Quand est-ce que vous dateriez ça?
65,
70, 56. Donc années 60-70. Oui, c'est pas loin, on est en 54.
Hey. Oui, c'est les structures. Oui, c'est oui. L'apparition des structures.
Oui, tout à fait, c'est côté Buckminster-Fuller. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce projet, c'est la question de la transparence de l'édifice. Hein. Effectivement, c'est l'édifice qui offre une visibilité, enfin, qui a son identité nocturne. Et qui, sans doute, n'a pas du tout la même image de nuit comme de jour, puisque de nuit, c'est vraiment l'éclairage intérieur qui forme les lignes principales du bâtiment, qui souligne les formes, qui modèle. Donc j'ai trouvé ce projet assez intéressant. Donc c'est un phare, hein, c'est écrit à l'entrée du port de New York. Là, quand est-ce que vous dateriez ce rendu? Hein? C'est écrit? Ah. Ah oui, c'est marqué. Bon, ben voilà. Donc c'est plutôt. Ben 1906, oui, c'est là que les éditions commençaient à publier les planches. Bon, alors c'est un phare, évidemment, le programme se prête à l'éclairage électrique, c'est évident, mais j'ai trouvé que le rendu là aussi était intéressant, puisque il souligne la puissance de l'intensité lumineuse dans des choses qui seront très différentes après dans la façon dont les élèves vont traiter les phares. Donc je vous en montrerai d'autres. Moi, mon analyse, c'était qu'en fait, le phare ici, bon, évidemment, il est là pour pour guider les navires, hein, mais il est moins davantage une source de lumière qu'un monument dans le traitement architectural du bâtiment. Hein. On est sur une architecture encore très classique et académique qui se sert du prétexte technique de la puissance de la source lumineuse pour s'imposer comme un édifice remarquable qui domine l'environnement proche, là aussi avec un rapport d'échelle important. Alors là, vous avez la date, on est dans les années 20. Alors, à votre avis, celui-là, je ne vais pas vous interroger sur chaque planche, mais celle-là, je la trouve amusante. De quoi s'agit-il, selon vous ? Ouais. Voilà, bon, parce qu'effectivement, on voit l'avion au milieu. Alors, pourquoi un aéroport à avion, oui, pourquoi ? Parce que on ne pouvait pas traverser l'Atlantique d'une seule traite, donc il fallait des ponts de ravitaillement aérien pour alimenter les avions en essence. Et donc ces îles flottantes sur l'Atlantique, c'est son nom, devaient se trouver à intervalles réguliers dans les océans pour ravitailler les avions. Ce qui est intéressant, c'est que il faut qu'il puisse être vu de nuit, bien évidemment, et donc l'éclairage électrique, il est là, sous la forme de cet énorme faisceau électrique. On en retrouve deux autres à l'arrière, hein, qui indiquent, dans l'immensité de l'océan, où se trouve le point de ravitaillement. Là aussi, du point de vue technique, alors, moi je suis incompétente hein, sur la technique lumineuse, mais je me suis interrogée sur la puissance nécessaire pour créer un tel rayon dans le ciel.
Faire une analyse, là, s'il vous plaît.
Oui, bah oui, bien sûr.
Je trouve pour avoir vécu, mais beaucoup plus tard, mais j'allais voir les rendus des écoles d'archi aux Beaux-Arts, fascinés pour savoir faire. Qui était quand même qui apparaît d'ailleurs dans tous les trois projets qu'on vient de voir, c'est avant tout les images.
Oui, bien sûr.
Dire que ça parle de la lumière, de la technique, etc., on ne va même pas vérifier si c'est réalisable.
Tout à fait.
Ce qui est important, c'était la fiction,
oui.
L'audace du projet,
oui.
De l'espace, de la construction, qui est là. Avant tout, je crois que ce sont des rendus, des performances, des faits spectaculaires. La lumière, bien sûr, elle est présente, mais tout le discours technologique que vous avez abordé avant, il n'est pas présent.
Du tout, non.
De pouvoir dire comment ça va construire, ça va se
construire. Absolument, on est effectivement dans de la représentation et dans de la sublimation d'édifices, de lieux. Il faut convaincre et on convainc avec des effets, mais ça, c'est pas propre à la lumière électrique, c'est vrai de la pédagogie des beaux-arts et des rendus qui, effectivement, cherchaient à magnifier autant que possible des édifices.
C'est très intéressant parce que, nouvelle, à un moment, quand il va être étudiant, réagir violemment contre ses rendus, puisqu'il va décrire son projet sans le montrer. C'est-à-dire qu'il a une position radicale de la contestation de ses performances esthétiques d'image, qui a été sanctionnée toujours brillamment, au premier prix, au deuxième prix. Et en 68, dans cette période de manifestation, lui, il va dire non, arrêtons, l'architecture, ce n'est pas des images, ce n'est pas du spectacle, c'est des réalités. Il veut son projet, il va forcément être très critiqué, mais il ne le montrera pas, il le décrira. Je dirais que c'est pour situer un peu le rapport de ce travail de fiction d'image qui est spectaculaire en fait.
Oui, elles sont très.
Tout à l'heure, le premier cirque,
oui.
C'est mal vu, mais c'est une performance graphique.
Tout à fait.
Avant d'être une analyse technique.
Et c'est bien ce qu'on a reproché à l'école des Beaux-Arts, entre autres, c'est effectivement d'être en décalage complet avec avec la commande architecturale effective.
La réalité opérationnelle.
Tout ça est très juste. Alors voilà un autre projet, un peu dans le même esprit. Un ensemble naval destiné à la propagande artistique et scientifique de la France, donc les faisceaux de lumière capables d'éclairer jusqu'à des villes, puisqu'on voit sans doute Venise, je pense, je ne sais pas, mais j'ai pensé que c'était Venise que l'on voyait là, dans le coin, mais qui éclaire aussi d'autres bateaux. Donc, ça c'est intéressant aussi.
C'est vrai que quand on regarde, par exemple, les documentaires ou présentations des années 30, de l'entrée d'Hollywood, le moment où les acteurs arrivent, et là, on voit vraiment en noir et blanc, c'est les mêmes images. En réalité, on a des fissures lumineuses aussi importantes, dans la réalité aussi. On est toujours dans l'imaginaire,
oui,
au miracle.
C'est vrai.
Noir et blanc.
Oui.
Fait qu'on a,
oui, oui.
C'est très proche de ça, en fait.
Hein. Ouais. C'est vrai. Oui, c'est vrai.
Il y a la réalité aussi, donc il y a des grands projets de cinéma qui permettent de tout
faire. C'est vrai. Absolument.
La technique, la maîtrise de base, c'était le lavis. Le lavis, c'était la déclinaison de l'encre de Chine, qu'on pouvait teinter avec un peu du bistre, on mettait du café blanc pour l'adoucir, le rendre marin. Mais ça n'était que la technique du lavis. Quand on apprenait la géométrie, avoir toute la déclinaison, c'était le lavis qui décrivait les ombres et les lumières, et tous les rendus d'archi n'étaient pas en couleur, ils étaient dans ces variantes qu'on appelait le lavis.
Oui. Oui. Alors c'est vrai que là, la reproduction est en noir et blanc, donc on perd effectivement la qualité du rendu chromatique, mais il faudrait voir les planches originales pour savoir s'il y avait de la couleur. Et c'est possible, il y a ce rendu assez monochrome au lavis, effectivement. Donc, vous l'avez compris, hein, l'École des Beaux-Arts tourne le dos à la crédibilité de la représentation technique au profit d'une débauche d'effets splendides et idéalistes. Et on observe d'autant plus facilement cette accentuation d'effets que l'on est dans des logiques de concours, où la nécessité de convaincre oblige à forcer le trait. C'est cet imaginaire impossible que récompense le jury au mépris du caractère réaliste des projets. Alors ensuite, on observe une évolution entre la lumière artifice et la lumière matériau, la lumière vraiment qui sert à construire un projet. Et c'est au début des années 30 qu'on observe cette évolution. Dans les projets entre 1928 et 1932, on observe la prise en compte de la lumière électrique comme élément de conception du projet. Voilà, ici, un petit office de tourisme qui est là, qui s'inscrit bien dans l'architecture du mouvement moderne. Dont la lumière, en tout cas l'illumination de la partie haute, sans doute par un système de transparence, met en valeur l'édifice, en souligne les lignes, et là on n'est pas du tout comme dans l'exemple du premier phare de 1906, mais on est sur une lumière qui compose, qui sert à construire l'esthétique du projet. Ici, un petit peu la même analyse, c'est donc une salle d'audition musicale où on voit que l'illumination de l'auvent au-dessus de l'entrée, l'illumination à l'intérieur, l'illumination ou pas, je ne sais pas, peut-être de la partie haute, ou est-ce le rendu qui fait qu'on veut détacher le bâtiment face à l'arrière. En tout cas, c'est une représentation nocturne. Montre que la lumière ici souligne l'horizontalité de la partie basse et la verticalité des ouvertures. Donc là encore, la lumière au service de l'esthétique du projet. Ici, c'est peut-être un peu plus tiré par les cheveux, mais j'ai trouvé cette représentation très belle, donc de l'entrée d'un port avec un pont mobile, là aussi avec le système du double phare, hein, qui éclaire les environs dans une représentation qui n'est ni nocturne ni diurne, on ne sait pas trop. Le paysage est visible, on voit des nuages, en même temps les phares sont éclairés, donc c'est là aussi, on est dans une espèce de rêve et d'indistinction de la représentation. Là, un projet qui se rapproche de celui que l'on a vu précédemment, hein, des années 50, qui ressemblait à celui de Buckminster Fuller, c'est-à-dire des architectures très modernes, là on est en 57, qui tire profit de la transparence de la façade pour laisser entrevoir l'aménagement intérieur et l'éclairage des différentes parties. Éclairage artificiel qui souligne les volumes géométriques, certaines sculptures à l'intérieur, modèle certaines formes. Et des systèmes de projecteurs également à l'extérieur. Alors j'avais essayé de classer ces projets par thème. D'abord, pour les premiers que je vous ai montrés sur la question de la célébration d'une société libérée de la contrainte du travail, ce qui est sans doute forcé, mais avec les cirques et les lieux festifs nocturnes, de la lumière artificielle à la lumière matériaux, avec ces exemples-là, mais aussi la question de exister la nuit sur le plan urbain. C'est le cas ici de la représentation de ces magasins éclairés de nuit, qui finalement nous sont assez familiers, puisque les grands magasins, quand ils sont éclairés le soir, peuvent donner cette impression-là, encore qu'ils soient beaucoup plus opaques que cette représentation qui montre un édifice très transparent, mais qui montre que l'animation urbaine, l'activité urbaine, la circulation des piétons après le travail est aussi permise par des bâtiments éclairés de l'intérieur qui forment la lumière de la rue. J'ai vu des articles dans lesquels il était question d'éteindre la lumière des réverbères, du mobilier urbain, puisque les bâtiments ou les boutiques, souvent, faisaient très bien, remplissaient très bien ce rôle-là d'éclairage de la chaussée. Donc on est là dans l'animation urbaine de fin de soirée. Une station essence aussi, très, très jolie, hein, qui, bien sûr, là aussi, il faut se faire voir, être repéré sur la route. Donc l'éclairage est en partie basse, mais il est aussi au niveau de la signalisation verticale, là, qui est très, très, très typique des années de l'entre-deux-guerres. 1932, ici. Des mâts indicateurs, ici, pour un cinéma, mais aussi pour un concours hippique. Là, ce sont des choses connues, hein. C'est toute la signalétique publicitaire qui a beaucoup usé du néon et des appareils électriques pour se signaler dans la ville. Et dernier exemple sur lequel je termine l'intervention, qui s'intitule « Un grand signal ». Que je trouve intéressant aussi, puisqu'il est situé au rond-point de la Défense, avant que la Défense soit mise en chantier, très peu de temps avant, où ce monument émerge d'un no man's land peu vraisemblable. On voit tout au fond, à l'horizon, l'Arc de Triomphe, qui paraît beaucoup plus éloigné qu'il ne l'est en réalité. Et c'est l'image d'un quartier en devenir, là où la résolution de la circulation automobile est fondamentale. On est là dans la tradition d'embellissement urbain des monuments parisiens, dans une logique qui donne à ce quartier de ville en devenir une dynamique d'existence nocturne. Alors deux mots pour conclure. On observe finalement que la tradition des rendus sous lumière naturel, avec le report des ombres à 45 degrés, à la vie dure. Les élèves sont habitués à produire des représentations de projets sous le soleil. Avec la source électrique, ils se heurtent à des nouvelles manières de modéliser les formes et de souligner les contrastes. Les codes traditionnels de la représentation sont perturbés. L'étude de cette production mineure, hein, vous l'avez bien compris, il y en a finalement assez peu de ces planches. Je ne les ai pas toutes montrées là, mais une bonne partie. L'étude de cette production mineure est doublement intéressante, car elle permet d'une part d'avoir un regard sur la production d'architectes inconnus, pour la plupart, simple succession de promotions d'élèves que l'historiographie de l'architecture moderne a ignorée. Et elle permet d'autre part de saisir cette tension entre respect de l'académisme et désir d'innovation. Voilà, j'ai terminé. Vous avez peut-être des questions ou des remarques ? Hein ? J'espère que ce n'était pas trop dense.
De la photographie, en fait, photographie de la lumière, photographie de nuit, des choses qui sont rares, parce que là, en fait, les sources principalement, c'est les revues.
Ah. Oui.
Les revues et les ouvrages d'écoute, parce que je vous disais, il y a très peu de sources. C'est difficile d'aborder cette question. Une des problématiques du programme de recherche.
Ouais, non, elles sont, en fait, non, elles sont nombreuses, les sources, parce qu'il y a beaucoup de revues. Bon, moi, j'ai limité mon corpus à des revues françaises et américaines, mais il y en a dans à peu près tous les grands pays occidentaux, les puissances économiques, en tout cas occidentales, à partir de l'entre-deux-guerres. Elles sont nombreuses, elles sont régulières, donc quantitativement, c'est une grosse somme. Et pour la question de la photographie, alors il y a des architectes qui se sont spécialisés dans la photographie nocturne, mais la plupart de ces revues montrent des photographies d'architecture. Il y a des schémas techniques, des coupes pour des dispositifs d'éclairage, bon, qui sont là vraiment techniques, mais il y a beaucoup, beaucoup de photographies d'architecture de nuit. Mais beaucoup d'architecture inter... Pardon ? Oui, mais même après, moi, je me suis arrêtée aux années 70, je ne peux pas parler de la suite, mais tout le temps, il y a tout le temps des images. Mais c'est surtout des vues d'intérieur. Le gros de la représentation photographique, c'est les intérieurs. Le logement, mais aussi les grands halls, les hôtels, les cinémas, les restaurants. Il y a énormément de restaurants qui sont représentés. Donc... Et c'est ça qu'on ne trouve pas dans les revues d'archi. C'est ça qui est... Ou quelques-unes, mais finalement assez peu.
On va trouver surtout les façades.
Oui,
les
façades ouais. Oui.
Oui.
Tout à fait. Oui, choses habituelles.
Il y a une période dans l'architecture où la... Je dirais dans les tours, quand il va y avoir l'apparition des tours au moment de la défense, par exemple, où la lumière va jouer un rôle très fort d'identification. Parce que souvent, on va avoir pas des tours qui sont des miroirs. C'est des tours avec des jeux de glace qui sont des miroirs. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le jour, elles captent le ciel, les nuages et elles disparaissent. Donc elles disparaissent comme identité et elles prennent sens le soir quand les bureaux sont allumés.
Oui.
Alors c'est intéressant parce que là, la lumière va jouer comme une identification phare et emblème, et là, elle a un rôle extrêmement fort. Elle n'est pas éclairée par l'extérieur, c'est l'intérieur qui est normalement l'identité.
Oui. Oui, oui, d'ailleurs, c'est un phénomène qui s'est amplifié au fur et à mesure. Hein, vous voyez, la tour Montparnasse, par exemple, on a supprimé tout le système d'éclairage qui était trop coûteux, qui a été conçu à l'origine, pour le remplacer par un système de LED, mais avec une créativité intéressante, enfin, un jeu de lumière. Et ça, on observe ça sur de nombreuses tours dans les grands quartiers, les grandes villes. Hein, mais assez récemment, finalement, justement par l'introduction de sources lumineuses moins consommatrices d'électricité.
Moi, j'ai l'impression aussi que si un peu d'exemple, de dessin, de rendu nocturne, on va dire, c'est que pour dessiner la lumière, il faut être très fort un dessin. J'ai l'impression qu'il y a une difficulté, à mon avis, à la dessiner.
Donc, la
le jour.
Oui,
donc, c'est peut-être pour ça aussi. Mais je pense sans doute. L'exemple que vous avez montré, là, je vois ici, à des étudiants de 5e année, qui cette année vont travailler sur la lumière et surtout doivent rendre
Oui.
Les blanches, on va dire, des dessins qui représentent la lumière. Mmh. Et je trouve ces blanches superbes parce que justement, c'est pas simplement la lumière, mais c'est aussi une époque qui à chaque fois sort de l'atmosphère. En fait, là, il y a que l'atmosphère qu'on voit. À la limite, l'architecture, on voit peu l'architecture, on voit surtout la lumière. Ouais.
Oui.
Et c'est chaque
absolument.
Fois, d'ailleurs, maintenant, deux, de nous étonner dans cette représentation nocturne.
En fait, c'est une ambiance que l'on recrée.
Je passe un message, mais je trouvais ça très bien.
C'est vraiment le rendu d'une ambiance.
Vous avez parlé tout à l'heure des techniques d'éclairage. Certainement, on ne connaît plus. C'est comment on avait l'école. Vous avez dit l'éclairage qui met à 45 degrés de sens, c'est-à-dire latéralement et longitudinalement. Et c'était une technique dans la descriptive qui était un passage terrifiant. Quand je vois, moi je suis une génération, bon je ne vais pas parler de moi, mais je suis une génération qui a connu ces techniques. J'allais voir les beaux-arts, je le disais tout à l'heure, j'allais voir l'école des beaux-arts, parce que je n'avais pas fait cette formation-là, mais pour voir comment ils rendaient. Et comme ils avaient des produits classiques, c'est à savoir, dans l'itinéraire de l'or, ils avaient des projets d'architecture contemporaine, comme ceux-là, mais ils avaient toujours un sujet classique, c'est-à-dire on devait refaire des références aux colonnes, aux chapitres, au fronton et ainsi de suite. Mmh. Et donc c'était des exercices de rendu, et moi en voyant ça, on sent vraiment les performances extrêmement fortes. C'est dommage que vous leur rendez.
Que ?
C'est dommage que vous leur rendez. Alors j'ai donné deux expressions. Il y a une expression que. Bon, est-ce que dans les agences actuelles, on utilise encore le mot charrette ?
Ah oui, oui.
Alors d'où vient le mot charrette ?
Ah ouais, je sais plus, je crois qu'on transportait les plans dans une charrette. Ou...
C'était les employés de l'école qui criaient charrette parce qu'on y ramassait les panais, les grands panais, et on devait les mettre dedans. Donc, il y avait certainement l'allusion à la charrette où on allait se faire guillotiner, et il y avait certainement ça, mais c'était la charrette qui ramassait les panais. C'est qu'en fromage, je crois, on disait de 1,50 m sur 3 mètres, avec les rendus tendus dessus. Mm.
Oui, ça s'emploie toujours, hein. Ça n'a pas disparu, hein. Ni des agences, ni des écoles d'architecture.
Alors, je vais vous donner aussi un point, une petite légèreté, une sanction que qu'on pouvait avoir si on s'était mal comporté, c'était le prof de descriptive qui disait. Bon, très bien, vous me ferez l'ombre d'une roue bicyclette sur une colonne cannelée. Un adversaire en descriptive avec des ombres à 45 degrés. Voilà la
performance. C'était la punition.
C'était pas mal. C'était assez perfide. Pervers.
Oh, donc, j'ai pas eu. Il est bon.
Oh, non, on n'a pas eu.
Je suis sorti avant. Est-ce que vous avez étudié dans votre projet des projets maintenant faits avec les technologies actuelles ? Parce qu'on sent que là, on avait des moyens extrêmement sophistiqués.
Oui, oui, je suis toujours admirative de ces projets contemporains, effectivement, qui sont extrêmement créatifs avec la lumière artificielle. Mais non, moi, je ne m'y suis pas intéressée et je ne m'y intéresse pas parce que je suis obligée de limiter de faire des choix méthodologiques sur un corpus d'études, une période d'études et des questionnements particuliers. C'est déjà large.
Ce que je trouve très intéressant, la première partie de votre exposé, c'est que vous avez fait émerger tout l'aspect politique économique de la lumière, parce que vous avez montré les revues. Alors, est-ce que c'était pour initier, pour le bien-être ? À aucun moment, on voit l'éloge de la lumière, comme on pourrait parler de l'éloge de l'ombre, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me transforme, la lumière, avec toutes les sensations, l'échelle, les puissances et autres. C'est toute la dimension, comment les producteurs de tout l'éclairage vont faire des revues, diffuser, et là, on a une dimension éminemment politique de commerce.
Ah oui, oui. Mais d'ailleurs, ces revues, ce sont les revues de sociétés d'éclairage. Hein, donc, Transactions of the Illuminating Engineering c'est la revue de l'US Engineering, Illuminating Engineering Society, qui est fondée en 1907 aux États-Unis et qui est d'une puissance très importante. Il y a énormément de gens qui travaillent dans cette société et qui existe toujours aujourd'hui. Hein, donc, c'est les organes de presse, hein, ces revues sont les organes de presse de sociétés professionnelles. Donc, elles n'émergent pas dans le paysage sans ces assises-là. Et d'ailleurs, les professionnels qui rédigent dans ces revues sont les professionnels qui travaillent dans ces sociétés, sont des ingénieurs pour la plupart, sauf Lux, qui a une identité un petit peu à part, puisqu'elle convoque beaucoup d'architectes et de décorateurs, en tout cas avant 1940. Dans le comité de rédaction, il y a beaucoup d'architectes qui interviennent, comme Malé Stevens, comme Siklis, etc. Donc ça en fait, ça lui donne un profil tout à fait intéressant, justement, de permettre la communication entre ingénieurs et architectes. Parce que c'est quand même le leitmotiv hein, de ces revues. Après, il y a des revues qui sont davantage dans des comptes rendus de congrès, dans de l'actualité vraiment technologique. Le mois dernier, l'ampoule Mazda ou Philips vient de sortir. Voilà, on a tout ça hein, de toute façon. Mais Lux est un petit peu différente.
Bien. Ben, merci.
Je vous en prie.